Un déneigeur nous appelle pour nous signaler qu'il est bien important que les automobilistes ouvrent leurs phares, les phares de leurs voitures, et n'approchent pas trop les déneigeuses parce que ça n'arrête pas sur un 10 cents, les déneigeuses. Donc, il trouve que ça passe des fois un peu proche. Autre information, la ville de Lévis vient de fermer ses services administratifs pour toute la journée. Donc, c'est pas de service à Lévis pour la journée. Le maire Baboune a fermé son hôtel de ville. Et il y a quelqu'un qui me recommande de cacher le cellulaire. Il y a quelqu'un qui me recommande de cacher le cellulaire de mes grands veaux dans la neige si je veux les faire pelleter.
Ils vont les trouver.
Écoute, Luc, on a au bout du fil un personnage. Vraiment un personnage. Il est médecin. Il est joueur de football dans la Ligue nationale de football.
Et pas pour n'importe quelle équipe, les Chiefs de Kansas City.
En plus. Il gosse même, si j'en crois, une publicité des bols en bois quand il y a des temps libres. Et il s'implique dans les journées de la persévérance scolaire. Laurent Duvernay-Tardy, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Oui, bonjour.
Ben, ça va très bien, mis à part la tempête qui nous empêche d'aller à la rencontre des jeunes dans le cadre des journées de la persévérance scolaire. Tout va très bien.
Ça va vous laisser le temps de gosser quelques bols en bois?
Je suis un peu loin de l'atelier, là. Non, mais on est à Québec en ce moment, on est tous en train d'aller à Lévis aujourd'hui.
Alors, comment. La première question, c'est comment vous trouvez le temps de faire tout ça? Une carrière de footballeur professionnel, surtout dans la NFL, c'est un job à temps plein. Un étudiant en médecine, c'est un job à temps plein. Puis gosser des plans en bois, je le sais pas, mais ça prend du temps, ça aussi. Où est-ce que vous prenez votre temps?
Ben, je pense qu'en fait, c'est juste une question de prendre le temps. Puis c'est sûr que j'en ai beaucoup. Là. Je dirais que depuis que je suis revenu, surtout de ma saison, on se met à 100 000 dans plein de projets, que ce soit avec ma fondation ou avec les journées de la persévérance scolaire. Mais tu sais, chez nous, j'ai jamais eu de télévision. Je passe pas mes journées à écouter Netflix ou Facebook, etc. Donc, ça libère quand même du temps pour d'autres projets qui me tiennent à cœur. Puis comme je disais plus tôt, je pense que c'est plus une question de prendre le temps puis de faire de la place pour les choses qui me tiennent à cœur.
C'est un peu ce qui m'intriguait de votre présence pour ces journées de la persévérance scolaire. Vous êtes tellement un modèle inatteignable pour la plupart des gens que vous risquez de les décourager plus qu'autre chose. Quel conseil vous leur donnez?
Mais en fait, je pense pas que c'est tant une question de la grandeur des projets. T'sais, moi, j'ai choisi de mener à terme mes études en mon doctorat en médecine tout en étant joueur de football professionnel dans la NFL. Mais je crois pas que c'est nécessairement donné à tout le monde de faire ça. Cela dit, c'est pas tant la grandeur du projet qui est important que ce qu'il représente pour le jeune en tant que tel. Donc moi, quand j'essaie d'inspirer les jeunes à continuer leur passion, continuer leur projet, je leur dis pas nécessairement de prendre la tâche la plus faramineuse devant eux. Je dis de prendre un objectif qui est concret, qui est réalisable, puis de prendre les moyens pour le réaliser par la suite.
Vous avez dit, je ne regarde pas la TV, j'écoute pas Netflix. Est-ce que ça fait partie des choses que vous dites aux jeunes? Arrêtez de perdre votre temps devant des écrans.
Bien, faut quand même nuancer, je pense, parce que j'ai pas dit que je passais pas de temps devant les écrans. Ça reste qu'un ordinateur de nos jours, c'est quand même assez essentiel. Un téléphone cellulaire aussi, sinon on se parlerait pas en ce moment. Ça reste que il faut juste modérer, je pense. Puis moi, j'ai toujours prôné les vraies relations sociales avec mes amis, ma famille. Donc, tu sais, si je sors d'un entraînement le soir à 9h après un shift à l'hôpital ou une journée avec ma fondation, ben au lieu d'aller dans mon lit puis de rouler le fil Instagram, ben je vais aller comme dans un bar dire allô à mes amis, même si c'est une demi-heure. C'est juste de prendre le temps d'avoir des vraies interactions avec les gens, parce que c'est ressourçant, ça fait du bien, puis ça permet de décrocher.
Mais dites-moi une chose, vous exercez une telle fascination sur les gens au Québec, et ça m'inclut, là, qu'on se demande si vous avez des défauts. En avez-vous?
Oui, absolument. Vous devriez voir ma chambre d'hôtel à Québec. Là, maintenant qu'on est resté quelques heures de plus, c'est déjà le bordel. Là. Mais je pense que oui. Je veux dire, on a tous nos défauts. On parle souvent des projets que je réalise, mais il reste qu'il y a une équipe derrière moi aussi. Je me suis entouré avec les années de plein de gens qui m'aident à réaliser mes projets. Donc, c'est pas moi tout seul. Moi, des fois, je suis le visage aussi. Il y a une organisation en arrière assez méticuleuse qui n'est pas nécessairement tout le temps le fruit de mes efforts, ou du moins pas exclusivement le fruit de mes efforts.
Est-ce que l'école a toujours été facile pour vous? Est-ce que l'école a toujours été facile pour vous, Laurent?
Relativement, cela dit, en secondaire 1, secondaire 2, j'ai eu quand même une période d'adaptation assez difficile là, après le primaire, et puis j'étais un élève un peu turbulent, mais ça s'est passé avec le temps, puis après ça, ben, j'ai vraiment commencé à aimer l'école. Je pense que c'est d'ailleurs à cause de toutes les activités en parascolaire que je faisais, que ça soit du sport, de l'improvisation, de la musique. C'est ça qui me tenait à l'école, c'est ça qui faisait que j'avais envie d'aller à l'école, et puis c'est aussi ça que j'essaie de promouvoir, parce que les journées de la persévérance scolaire, c'est pas nécessairement de parler aux jeunes ou aux enseignants ou aux parents, c'est aussi de parler aux élus municipaux, gouvernementaux, puis de leur dire à quel point c'est important de créer un écosystème dans l'environnement scolaire qui est stimulant pour les jeunes.
Est-ce que c'est... On me dit que vous êtes le fils d'un ancien ministre du gouvernement de René Lévesque, n'est-ce pas?
Oui, en fait, le petit-fils, Guy Tardif, mon grand-père, était ministre des Transports dans le cabinet de René Lévesque.
Ah, d'accord. Parce que j'allais me demander, vous êtes un communicateur hors pair, vous avez une feuille de route absolument impressionnante. Je me disais, un jour, va-t-il faire de la politique comme son grand-père?
Bonne question. À première vue, je dirais non. Je pense que je suis pas rendu là dans ma vie, puis j'essaie de pas trop y penser non plus, mais j'ai comme trop de... Comment dire? Je veux que les gens m'apprécie. Je veux réaliser des trucs dans le concret maintenant, être réactif. Puis des fois, je trouve que être ministre, même si on accomplit de grandes, grandes choses, puis des gros, gros projets, ça prend du temps, puis on est plus souvent sujet à la critique. Je ne sais pas si je serais capable de le prendre en ce moment.
OK. Dans le fond, vous voulez voir l'effet de ce que vous faites là, maintenant, tout de suite?
Ben, ça serait ma première réponse, mais encore là, c'est peut-être pas réfléchi assez ce que je dis, donc je veux pas non plus m'avancer trop. J'essaie d'être diplomate un peu, ce que j'ai aussi de la difficulté à faire, puis qu'il faut faire avec beaucoup de succès si on veut être politicien.
mais dites-moi, vous avez reçu votre doctorat, mais maintenant vous devez faire comme ce qu'on appelle l'internat, n'est-ce pas?
Oui, en fait, je vais faire la spécialisation, la résidence. C'est un peu la question que je me pose en ce moment, c'est est-ce que c'est mieux pour moi et ma profession de futur médecin de faire ma résidence à temps partiel au fil des saisons de football futur, ou c'est mieux d'attendre une fois ma carrière terminée puis de faire la résidence à temps plein à ce moment-là. Donc c'est un peu la question que je me pose en ce moment. Puis cette saison morte-ci, je vais rencontrer plusieurs facultés de médecine et chefs de département pour voir c'est quoi l'horaire qu'on pourrait faire afin de m'accommoder et aussi afin que je sois le médecin le plus compétent possible quand tout ça soit terminé.
Et votre spécialité, ça va être quoi?
Médecine d'urgence. C'est ce qui m'intéresse le plus jusqu'à maintenant. J'ai fait beaucoup de rotations en urgence à l'Hôpital Général de Montréal, à l'Hôpital Notre-Dame. Et puis, c'était vraiment une passion pour moi. Puis, même à un point tel que je suis retourné faire quelques rotations à l'Hôpital Santa Cabrini à Montréal depuis mon retour.
Vous savez, M. Duvernay-Tardif, moi, je regarde la profession que vous pratiquez, surtout la position à laquelle vous jouez. Je m'inquiète toujours que vous allez un jour être victime des commotions cérébrales qui sont devenues un véritable fléau dans à peu près tous les sports professionnels et que vos rêves vont s'envoler en fumée. Vous craignez pas ça?
Ben, je crois qu'on craint un peu tout ça dans ce sens où les commotions cérébrales comme les blessures musculo-squelettiques dans un sport de contact comme le football, ça fait partie des risques qu'on encourt en allant sur un terrain. Je pense qu'il faut se demander est-ce qu'on est confortable avec ces risques-là, puis est-ce qu'on fait tout ce qui est en notre possible pour les minimiser et les réduire. Dans mon cas, je pense que mon point de vue, c'est que la technologie a quand même beaucoup avancé au courant des dernières années. On voit des casques faire apparition sur le marché qui sont beaucoup, beaucoup plus performants à réduire les impacts. Meilleure technique de jeu. Aussi, au niveau des règles du jeu, on donne des punitions aux joueurs qui attaquent avec le casque, donc le dessus du casque qui est réputé pour causer le plus gros impact et le plus gros risque de commotion. Donc, tranquillement, pas vite, je pense que le sport évolue, puis il n'y a pas le choix d'évoluer après toutes les années. On sait que les commotions ont été minimisées dans ce sport pendant si longtemps. Mais je pense qu'on assiste quand même à un retour du pendule, et puis j'espère que le sport va donner un peu de sport avec les avancées.
Quand votre thérapeute vous soigne, là, il doit être un peu gêné. Il soigne un docteur.
Je pense qu'il aime ça, honnêtement. À Kansas City, j'ai une super bonne relation avec les physiothérapeutes, avec les orthopédistes, puis c'est toujours le fun d'échanger. Les autres... Des fois, on veut pas dans le vestiaire, on fait un peu de la médecine à sens unique. C'est difficile, des fois, d'avoir une communication puis une conversation en profondeur sur les blessures. Enfin, je pense que les physios apprécient de pouvoir remettre en question certains traitements puis de pouvoir discuter des l'évidence derrière certains traitements, à savoir est-ce que c'est scientifiquement prouvé que ça fonctionne, etc., etc. Puis moi, ben malgré le fait que j'aime pas être blessé, ça me fait découvrir l'envers de la médaille ici, puis de comprendre c'est quoi être un patient, puis les défis au niveau psychologique aussi d'une blessure physique.
Laurent Duvernay-Tardif, j'espère que vous allez pouvoir continuer votre tournée des écoles. Moi, je vous ai entendu dire deux, trois choses que j'ai envie que les jeunes entendent. Lâchez un peu les écrans, retournez vers le contact humain, puis amusez-vous à l'école avec toutes les activités parascolaires.
Ben absolument, on ose pouvoir retourner à Lévis dès demain matin.
Merci.
Alors, je tiens à vous dire, moi, que vous êtes un peu la fierté du Québec. C'est extrêmement bien mérité et on vous admire tous.
Ben, merci beaucoup et puis bonne fin d'émission.
Merci. Et toutes les femmes de mon âge voudraient être votre mère, même si vous ne ramassez pas votre chambre.
Ça va venir avec le temps, c'est les résolutions de 2019.
Merci.
Bye.
Au revoir.
Il est 11h40.
Salut.
Tu vois, il prend le temps de faire le tour des écoles, d'aller jaser avec les jeunes. Puis je me suis dit, c'est un modèle tellement inatteignable. Tu sais, réussir ce qu'il fait, là, c'est fantastique. Il risque d'être décourageant.
Je me demande s'il peut tenir le coup. S'il va tenir le coup.
Il n'est pas décourageant. Parce que ce qu'il leur dit, c'est, regarde là, le contact humain, c'est ça que ça donne. Il met en primeur.
Mais il s'en met beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les épaules. Et il nous donne un peu l'impression d'être un quasi-surhomme de la perfection. Et je souhaite qu'il soit capable de continuer à ce rythme-là. Mais j'en doute. C'est beaucoup, là. Tout ce qu'il est en train de faire, ce programme-là, sa job de footballeur, il a été absent du jeu pendant plus de la moitié de la saison à cause d'une grave blessure. Son internat, sa spécialisation. Écoute, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est mieux de faire attention. Je suis sûr qu'il en est conscient, là, mais il n'y a pas de surhomme sur Terre.
Non, mais c'est un beau modèle. Et, tu sais, quand il nous dit je regarde pas la TV, je regarde pas Netflix, c'est vrai que quand tu élimines le temps où on s'écrase à regarder la TV ou d'autres écrans, récupères beaucoup de temps d'activité. Il y a beaucoup de gens, là, notamment en médecine, pense à Gaëtan Barrette ou à Yves Bolduc, mm-hmm. qu'on a peut-être moins aimé comme ministre, mais qui étaient, ils sont capables, ces gens-là, d'avoir des 15-16 heures d'activité dans une journée.
Oui, tout à fait, oui. C'est remarquable.
Mais c'est, il y a des gens qui ont cette capacité-là.
C'est pas donné à tous.
Non.
Puis,
et là, je peux-tu te faire des reproches?
C'est pas ça que je l'admire, là. Je connais pas ça. T'allais dire quoi?
Je veux te faire des reproches. Quand on a un médecin en ligne, t'essayes pas de l'envoyer en politique, OK? On en a besoin. On en a besoin des hôpitaux.
Je te promets que je le ferai plus jamais. Mais écoute, c'est le petit-fils de Guy Tardif, pour ceux qui ne savaient pas.
Je savais pas non plus.
Il a occupé divers portefeuilles dans le gouvernement de l'évêque. Et il y a sûrement de la génétique dans ça, parce qu'une des particularités de Guy Tardif, c'est qu'il mesurait comme 6 pieds 6, 6 pieds 7, là, tu comprends? Ah. Alors, je pense qu'il y a quelque chose dans la carrure qui vient de son grand-père, qui est un ancien policier de la GRC, d'ailleurs.
Il est 11h43 minutes. On va s'arrêter quelques minutes là-dessus.
OFM 93, vous